Chers frères et sœurs, chers amis, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Que cette heure que nous allons passer ensemble soit pour chacun d'entre nous un temps de paix, un temps d'écoute et de louange, un temps où nous apprenions à vivre en communion avec Jésus de Nazareth et avec tous nos frères et sœurs, connus ou inconnus, proches ou lointains. Puisse alors ce culte être l'occasion pour chacun d'entre nous de rencontrer celui qui a dit à ses disciples et qui nous dit aujourd'hui « Que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Amen. Je vous invite à vous lever pour saluer la présence de Dieu parmi nous avec le premier chant spontané. Éternel, c'est toi qui es Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu que toi. Nous sommes le peuple dont tu es le berger, le troupeau que ta main conduit. À toi seul soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ. Je vous invite à prolonger cette louange par le chant du psaume 33, dont nous chanterons les strophes 1, 3 et 5 du psaume 33. Réjouis-toi, peuple fidèle. Vous asseoir. Nous écoutons la volonté de Dieu pour nous au livre du Deutéronome, chapitre 30, versets 11 à 20. Le commandement que je te donne aujourd'hui n'est pas trop difficile pour toi. Il n'est pas hors d'atteinte. Il n'est pas au ciel, car tu dirais alors « Qui va pour moi monter au ciel, me le chercher et me le faire entendre pour que je le mette en pratique ?» Il n'est pas non plus au-delà des mers, car tu dirais alors « Qui va pour moi passer de l'autre côté de la mer, me le chercher et me le faire entendre pour que je le mette en pratique ?» Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort, le bonheur et le malheur, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Amen. Nous confessons nos fautes à travers cette célèbre prière de Martin Bucer et de Jean Calvin qui nous vient de 1541. Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant, nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, nés dans la corruption, enclins au mal, incapables par nous-mêmes de faire le bien, et que nous transgressons tous les jours et de plusieurs manières tes saints commandements, attirant sur nous par ton juste jugement la condamnation et la mort spirituelle. Mais Seigneur, nous avons une vive douleur de t'avoir offensé et nous nous condamnons, nous et nos fautes, avec une vraie repentance. Recourons humblement à ta grâce et te supplions de venir en aide à notre détresse. Veuille donc avoir pitié de nous, Dieu très bon, Père de miséricorde, et nous pardonner nos fautes pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. En effaçant nos souillures, accorde-nous aussi et nous augmente continuellement les grâces de ton Saint-Esprit, afin que, reconnaissant de plus en plus nos fautes, nous en soyons vivement touchés, nous y renoncions de tout notre cœur, et que nous portions des fruits de justice et de sainteté qui te soient agréables, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Veuillez écouter les paroles de grâce et de pardon. Le Seigneur nous aime dans le tourbillon de notre vie. Dans nos nuits de tâtonnement et d'hésitation, il nous regarde et il nous pardonne. Dans nos heures de peine ou de peur, il nous comprend et nous console. Dans nos matins d'espoir, il nous encourage, il nous stimule, il nous dit d'avancer. Dans le tourbillon de notre vie, il est là, notre Seigneur et notre Dieu. Dans notre monde où tout s'achète et tout se vend, où l'homme s'étonne et suspecte lorsqu'il reçoit gratuitement, j'annonce aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ qui nous délivre de nos servitudes, de nos fatalités, de nos craintes et nous appelle à une vie nouvelle. Alors, que tous ceux qui se repentent sincèrement dans la foi reçoivent de la part du Seigneur l'assurance de leur pardon. Mon enfant, dit le Seigneur, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Amen. Nous confessons la foi chrétienne en suivant du cœur ces paroles. Je crois en Dieu, le Père, qui donne sens à toutes choses, visibles et invisibles. Il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur, qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est la vie et la lumière du monde, son règne dépassera le temps. Je crois en l'Esprit Saint, qui a parlé par les prophètes, les apôtres et les réformateurs. Il donne la paix aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Je crois en une seule Église universelle et la communion des âmes dans la foi, l'espérance et la charité. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour, plus fort que la mort. Et j'attends la vie éternelle. Amen. Avant de lire les Écritures, je vous invite au recueillement. Ô Dieu notre Père, nous te prions pour que ton esprit illumine nos cœurs, afin qu'à nouveau nous découvrions ce matin à quelle espérance tu nous appelles et quelle grandeur s'attache à ton nom. Fais que la prédication de ta parole rende présent parmi nous Jésus-Christ, lui qui est parole vivante pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, nous prendrons deux lectures pour appuyer notre prédication. D'abord au livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40, les versets 1 à 5. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Vous trouverez notre deuxième lecture dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 3, les versets 1 à 11 de ce chapitre 3 de l'Évangile de Matthieu, consacré à Jean-Baptiste. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais Jean, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous déclare que ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Seigneur, la fleur des champs fane, l'herbe disparaît, mais ta parole demeure éternellement. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever pour chanter le 177, Adeste Fideles. Nous restons dans le temps de Noël, qui est en liturgie actuelle. 177, au peuple fidèle, les trois strophes. Je vous invite maintenant à la prière avec Saint-Exupéry, qui n'a pas fait qu'écrire Le Petit Prince. Les petits pas de Saint-Exupéry. Seigneur, apprends-moi l'art des petits pas. Je ne demande pas de miracle ni de vision, mais je demande la force pour le quotidien. Rends-moi attentif et inventif pour saisir au bon moment les connaissances et expériences qui me touchent particulièrement. Affermis mes choix dans la répartition de mon temps, donne-moi de sentir ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Je demande la force, la maîtrise de soi et la mesure, que je ne me laisse pas emporter par la vie, mais que j'organise avec sagesse le déroulement de la journée. Aide-moi à faire face aussi bien que possible à l'immédiat et à reconnaître leur présente comme étant la plus importante. Donne-moi de reconnaître avec lucidité que la vie s'accompagne de difficultés, d'échecs, qui sont des occasions de croître et de mûrir. Fais de moi un homme ou une femme capable de rejoindre ceux qui gisent au fond. Donne-moi non pas ce que je souhaite, mais ce dont j'ai besoin. Apprends-moi, Seigneur, l'art des petits pas. Amen. Frères et sœurs, le royaume de Dieu s'est approché. Le texte que je propose aujourd'hui à votre méditation est très, très, très connu. Tellement connu même que sa simplicité et sa force en ont été, me semble-t-il, largement oubliés. On le considère comme un temps obligé, lié au temps liturgique de l'Avent ou de Noël, un passage en quelque sorte obligatoire. Et puis l'on garde depuis notre enfance l'image assez pittoresque, somme toute telle qu'elle est décrite, de Jean-Baptiste, vêtu d'un manteau en poil de chèvre, et se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage. Ou alors, d'un strict point de vue exégétique, on se rappelle que les disciples de Jean-Baptiste et de Jésus étaient très très loin d'être d'accord entre eux, que certains passaient d'un groupe à l'autre, et que, il faut bien le reconnaître, les évangélistes ont eu tendance un peu à forcer le trait pour démontrer que ce prophète était sympathique, mais un petit peu désuet, un petit peu dépassé. Bref, on trouve Jean-Baptiste quelque peu ennuyeux par ses appels incessants à la repentance, trop violent dans ses paroles, un peu trop pesant. Et l'on passe ainsi à côté de l'essentiel de son message qui rappelle le royaume de Dieu s'est approché. Vous me direz qu'aujourd'hui, c'est une parole bien difficile à entendre, presque autant comme elle était hier. Hier en Palestine, avec le peuple juif, opprimé par l'Empire romain, cet empire gouvernant d'une main de fer, gouvernant d'un roitelet interposé, avec la complicité d'une partie du clergé, et qui levait force impôts par l'intermédiaire des publicains. Un peuple juif donc qui était profondément divisé sur le plan politique, avec d'un côté les collaborateurs de l'occupant romain et de l'autre les zélotes préparant l'insurrection armée. Sans oublier au milieu d'eux la traditionnelle grande masse des indécis. Un peuple juif enfin profondément divisé sur le plan théologique, notamment entre d'un côté les sadducéens rejetant l'idée de résurrection et de l'autre les pharisiens si soucieux de pureté et de respect de multiples rites, sans compter une myriade de sectes, de prophètes, voire de messies, autoproclamés et de faiseurs de miracles en tout genre. Aujourd'hui, notre village planétaire, avec ses guerres incessantes, les enfants esclaves, les femmes bafouées, les désastres écologiques, le développement de forces obscurantistes et fanatiques. Et même dans nos pays riches, le développement de la pauvreté, de l'analphabétisme, les morts de froid dans la rue, le retour des maladies que l'on croyait éradiquées, la montée en puissance d'idées racistes, nationalistes, totalitaires, l'euro économique au lieu d'une économie au service de l'homme. Qu'est-ce qui a donc changé en plus de 2000 ans et en quoi le royaume de Dieu a-t-il pu s'approcher ? Eh bien, à l'encontre de tous les scepticismes et de toutes les incrédulités, nous l'annonçons fort, depuis la venue de Jésus-Christ parmi nous, malgré les apparences, tout a changé, ou plus exactement, pour reprendre une formule heureuse et bien connue, l'humanité tout entière est entrée dans le « déjà là » et le « pas encore » du royaume de Dieu. Déjà là, en effet, sont présents les germes du royaume, avec 6 millions d'hommes et de femmes de bonne volonté, avec ces bienfaiteurs célèbres de l'humanité, ces hommes et ces femmes de foi, ces philosophes, ces écrivains, ces scientifiques, ces savants, ces artistes, mais aussi avec tous ces inconnus qui savent très simplement donner un peu d'amour autour d'eux, à ceux qu'ils aiment, comme à ceux qu'ils aiment moins, voire à ceux qu'ils n'aiment pas. Pas encore lorsqu'on observe avec lucidité l'état d'une société qui n'est ni juste ni fraternelle, à l'image d'ailleurs de l'histoire des églises chrétiennes, qui au lieu d'être reflet fidèle du message d'amour et de paix de Jésus, a été pendant trop de siècles éclairée par la lueur des bûchers, éclaboussée par le sang des persécutions. Ce sont des siècles que nul n'oublie. Quoi qu'il en soit, pendant ces trois dernières décennies, on veut s'écrouler la plupart des dictatures, notamment en Amérique du Sud, en Europe de l'Est et en partie en Afrique, et reculer les guerres malgré les apparences, comme les froides et tristes statistiques le démontrent. Nous sommes maintenant beaucoup plus sensibles à la violence, à l'intolérable, que sont les guerres qui règnent, si on cite les plus tristement célèbres actuellement, en Syrie et au Yémen. Et cette sensibilité, justement, extrême nous font croire que les conflits sont beaucoup plus nombreux et violents, alors qu'ils le sont moins. Mais cette réaction, ou cette pensée que les conflits sont plus nombreux et plus durs, est finalement très saine, parce qu'elle montre encore une fois que la souffrance et la guerre nous sont d'autant plus intolérables qu'il y a plusieurs décennies. Ainsi, toutes les valeurs qualifiées trop souvent péjorativement de judéo-chrétiennes ont fait, malgré tout, petit à petit, leur chemin, jusqu'à devenir, sur le plan international, la référence théorique, bien sûr, non citée en tant que telle, pour la quasi-totalité des États. C'est ne pas faire à autrui ce que l'on ne veut pas subir de lui. C'est la proclamation de la liberté, de la dignité de tous les êtres humains, quelles que soient leurs origines, le rejet de toute discrimination, le respect des femmes, la protection des enfants, le souci de soulager la misère, d'éviter la guerre, de protéger la création, d'œuvrer pour une société plus humaine, etc., etc. Toute référence et toute perspective tracée avec plus ou moins de bonheur par la plupart des traités internationaux et particulièrement par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, dont l'anniversaire, entre parenthèses, a été trop peu, sinon totalement, salué l'an dernier. En tout cela, oui, le royaume de Dieu s'est approché, et depuis le vieux livre de l'Ecclésiaste, depuis la venue du Christ sur cette pauvre et belle terre, il y a bien quelque chose de nouveau sous le soleil. C'est qu'on est passé de l'apologie de la force et de la violence chère aux sociétés antiques, et particulièrement au monde romain, à l'exhortation à l'amour du prochain, et à la préparation d'une ère de paix, de justice et d'amour mutuel. Ainsi, depuis le passage de Jésus-Christ sur cette terre, les conditions sont enfin réunies pour qu'une nouvelle étape puisse être franchie dans l'histoire humaine, afin que l'homme ne soit plus jamais un loup pour l'homme. Et si, au bout de plus de 2000 ans, nous pourrions tenter de dire que Jean-Baptiste et le Christ s'étaient trompés en parlant de la proximité du royaume, nous devrions mesurer que c'est une durée extrêmement courte par rapport à l'histoire et les préhistoires de l'humanité et aux millions d'années qui nous éloignent de notre lointain ancêtre qui fut le premier à façonner ses outils et à communiquer avec ses semblables. Nous devrions aussi nous souvenir de ce que nous dit l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître, chapitre 3, verset 9. Il y a une chose, mes amis, que vous ne devez pas ignorer, c'est que pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard, mais il fait preuve de patience envers vous, ne voulant pas que quelques-uns périssent, mais que tous parviennent à la conversion. Nous devrions enfin nous rappeler cette magnifique parole de l'apôtre Paul dans Timothée 1, chapitre 2, verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Avec cette assurance d'un salut universel, tout est dit. Pour que le royaume de Dieu s'approche encore plus, pour que la parole habite toujours plus le monde, Dieu a besoin de nous pour agir comme nous avons besoin de lui. Car l'histoire du monde n'est pas fatale, elle n'est pas fixée, pas écrite à l'avance, mais dépend uniquement de notre volonté de nous inscrire concrètement ou non dans le projet qu'a le Seigneur pour notre création qui est aussi la sienne. Il ne s'agit donc pas d'attendre passivement le royaume en trouvant le temps bien long, mais il s'agit bien au contraire de contribuer à le faire avancer ici et maintenant. D'ailleurs, Jean-Baptiste, après le prophète Ésaïe, nous le redit, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Cette formule est à la fois un appel à l'humilité et à l'engagement. Appel à l'humilité, car nous sommes appelés qu'à préparer la terre nouvelle et le ciel nouveau dont parle de façon si émouvante le prophète Ésaïe et l'évangéliste Jean au livre de l'Apocalypse. Mais l'avènement du royaume, c'est bien à Dieu qu'il appartient, lorsque le Christ sera de retour parmi nous, parce qu'il sera présent en chacun d'entre nous. La liberté de Dieu ne se laisse pas en effet enfermer dans le désir de l'homme, car Dieu nous a créés à son image, c'est-à-dire libres, libres y compris de choisir entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, tout en nous demandant bien sûr, comme il le rappelle à Moïse au livre du Deutéronome au chapitre 30, de choisir le bien. Par ces mots, le Seigneur ne nous oblige pas, mais il nous invite à agir comme lui, à agir avec lui. Deuxième point, appel à l'engagement. Car Jean-Baptiste ne se contente pas de la repentance des adultes qui viennent se faire baptiser, mais les rabroue, souvenez-vous, avec rudesse, engeance de vipère, qui vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient. Et les place aussitôt face à leur responsabilité, produisez donc du fruit qui témoigne de votre conversion. Une conversion donc, non pas simplement en parole, ce qui ne serait qu'hypocrisie religieuse, mais aussi et surtout une conversion en acte. En effet, pour reprendre une belle et juste expression du grand pasteur de l'oratoire Wilfred Monod, je cite, « à l'heure du jugement dernier, mieux vaudra avoir servi Jésus-Christ sans l'avoir nommé que l'avoir nommé sans l'avoir servi. » Alors oui, savoir reconnaître nos manquements, jour après jour, dimanche après dimanche, est fondamental pour examiner en conscience les manquements que nous avons eus vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de nos frères. Et au-delà, ainsi que le disait lucidement et douloureusement l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, verset 19, pour tenter de discerner le bien que nous avons voulu faire et que nous n'avons pas fait, et le mal que nous avons fait sans l'avoir voulu. En effet, en deçà des bonnes ou des mauvaises actions imputables à nos décisions et à notre responsabilité, et en deçà même de nos capacités de discernement, une part de nous-mêmes nous échappe. Et du coup, s'opère un décrochement entre notre bonne volonté d'une part, notre sincérité et nos agissements. Se dire pécheur devant Dieu et devant les hommes, c'est reconnaître cette réalité sévère en soi-même, comme en tout homme, non pas dans un esprit de résignation désespérée, mais dans celui de se remettre à sa juste place. Cette humilité consiste donc à reconnaître notre propension naturelle au mal, mais aussi à accepter d'être dépendant des autres, de leur aide, de leur don, de leur pardon, même si l'on se juge indigne. C'est aussi savoir s'en remettre à Dieu. D'ailleurs, n'est-ce pas le Christ lui-même qui termine le Notre Père dans l'Évangile selon Matthieu par la vocation « Délivre-nous du mal ». Nous disons ainsi la pesanteur, la généralité et l'objectivité de ce mal auquel nul n'est en mesure d'échapper tout seul. Cette reconnaissance de notre humaine condition nous sauve de deux erreurs dévastatrices. D'une part, celle de l'innocence absolue, d'autre part, celle de la culpabilité écrasante, qui sont deux manières jumelles et opposées de fuir et finalement d'éviter de prendre toute responsabilité. Se reconnaître pécheur nous aide à identifier ce mal que nous ne voulons pas faire et que nous faisons, dans l'espérance de le réparer et de le dépasser. Et c'est dans cet esprit que nous demandons pardon, sans idée de mérite ou d'excuse, mais dans la confiance en Dieu. Car ainsi que Jésus le déclare dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 20, « Quand votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur et il connaît toutes choses. » Alors oui, frères et sœurs, Luther a été particulièrement bien inspiré de parler du destin simultanément tragique et magnifique de l'homme, à la fois pécheur et pardonné. Et qu'elle avait également de parler dans cette belle confession des péchés que nous avons lue tout à l'heure, de notre inclination naturelle au mal, de notre seul et unique recours à la grâce de Dieu et à son pardon, de notre appel à l'Esprit Saint pour reconnaître nos fautes et surtout porter des fruits de justice et de sainteté. Cette confession des péchés, loin d'être culpabilisante, contrairement à ce qu'on pense, nous appelle à discerner le mal, non pas pour le contempler comme une réalité intangible, mais pour le dépasser et pour nous en sortir. Contrairement à ce qui a pu parfois être dit ou écrit, ce texte ne doit pas être entendu comme un exercice d'auto-flagellation, mais doit être vécu comme un message de libération et d'appel à la responsabilité. En effet, à travers ces paroles, les réformateurs de Strasbourg pour Martin Bucer et de Calvin pour Genève annonçaient par-delà les siècles la bonne nouvelle, à l'instar de Jean-Baptiste qui parlait aussi de l'Esprit Saint après la repentance et après la conversion. Car l'Esprit Saint nous est promis dans un même temps où nous sommes appelés à nous convertir. « Moi, je vous baptise d'eau, disait Jean-Baptiste, mais lui qui vient bientôt, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Produisez donc du fruit digne de votre conversion. Qu'est-ce à dire? Les foules, c'est-à-dire nous, aujourd'hui, l'interrogeaient, mais que ferons-nous donc? Jean-Baptiste leur répondit que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Frères et sœurs, il n'y aura pas d'autre conclusion pour nous ce matin. Notre conversion, si elle est sincère, nous conduira sur le chemin de l'engagement individuel ou collectif, humanitaire, social et même politique au sens noble du terme. L'Esprit Saint nous inspirera la préoccupation de la justice parmi les hommes et parmi les femmes, parmi les peuples, du partage de nos richesses avec tous ceux qui n'ont rien, ni argent, ni travail, ni logement, ni papier. Si l'évangile de Noël ne nous rappelait pas ces dures vérités-là, ce ne serait pas l'évangile de Noël. Convertissez-vous, nous dit ce matin Jean-Baptiste, surtout ne nous décourageons pas, surtout ne baissons pas les bras. Jamais. Le règne du Dieu d'amour s'est approché avec Noël. Produisons donc, frères et sœurs, du fruit qui témoigne de notre conversion. Amen. Thank you. Pour les annonces, je pense qu'il y a un conseiller presbytéral, une conseillère qui va les faire.
Voilà, ça doit marcher là. Alors, j'ai quelques annonces pour ce matin. D'abord, je voulais remercier vivement Philippe Volos pour cette brillante prédication de ce matin qui nous a permis de redécouvrir le personnage de Jean-Baptiste qui effectivement fait partie un peu de nos légendes et mythes familiaux, en particulier dans le protestantisme. Merci encore de votre présence fidèle auprès de nous et de ces prédications que vous faites régulièrement chez nous. Merci beaucoup. Donc je voulais vous annoncer demain, comme maintenant, comme d'habitude, un accueil musical au Temple le lundi 14 de 12h30 à 14h. Le conseil presbytéral se réunira mercredi soir. Vendredi, le groupe Théopsycho de 18 à 19h30 avec une présentation de l'Évangile au risque de la psychanalyse de Françoise Dolto. Le groupe Évangile et Liberté, animé par Laurent Gagnebin, ici présent, le samedi 19 de 10h30 à 12h30 dans ce temple. Et puis aussi quelque chose, une perspective très très excitante, nos quatre cultes conférences qui seront consacrées cette année à Dieu et la musique, qui commence le dimanche prochain, donc le 20 février, avec une conférence de Christian Lutz, qui portera sur les psaumes. Vous savez que le deuxième culte conférence sera fait par Colline Serrault, la réalisatrice, qui viendra avec sa chorale et qui va nous faire une conférence sur Dieu et l'art. La troisième sera donc le 3 février, faite par Freddy Eschelberger, notre organiste. Et ce sera pour la première fois l'occasion d'écouter une cantate de Bach intégralement pendant le temps du culte conférence. Donc on va avoir vraiment un programme extraordinaire. Et le dernier dimanche, qui est donc le 10, me semble-t-il, ce sera la conférence d'Edgar Morin, dont nous espérons bien la présence, sauf s'il y a un problème de santé ou autre, mais nous l'attendons avec impatience. Mardi 22 janvier de 19h30 à 21h, à l'occasion de la semaine œcuménique, il y a une célébration organisée au Temple et animée par le groupe des chrétiens du Faubourg qui se réunit tous les mois au foyer de l'âme avec Catherine Axelrad. Y participeront des catholiques du quartier, notre organiste Nicole, des protestants de la paroisse luthérienne de Bon Secours et le représentant du groupe Cieux. Vous savez, c'est l'interreligieux citoyen, c'est une association que nous avons accueillie à plusieurs reprises et qui est très active dans les 11e et 12e arrondissements. On a préparé des flyers sur cette cérémonie du 22 janvier à laquelle je vous invite tous à être présents. Je pense que ça sera très intéressant. Et c'est aussi une façon de montrer également notre accueil pour les autres communautés chrétiennes du quartier. Donc merci de prendre ces flyers mis à disposition et ceux qui le pourront de prévoir représenter notre paroisse à cette célébration qui sera suivie d'un buffet amical. Exceptionnellement, les cours de français auront lieu au deuxième étage ce soir-là. Voilà, merci à tous. C'est maintenant le moment de l'offrande. Et j'espère que vous donnerez avec joie, comme les autres dimanches. Merci d'avance.
Oui, j'allais le dire. Voilà, 246, on s'est levé pour chanter les trois strophes du 246, « Quand la moisson du monde est grande ». Je vous invite à la prière. Pour tous ceux qui sont confrontés à la douleur et à la mort, comme tu l'as été, Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux qui te donnent un visage, Seigneur Jésus, en répandant ton amour dans le monde entier, nous te prions. Pour tous ceux qui te donnent des mains, Seigneur, en faisant le bien à l'égard de leurs frères et de leurs sœurs, nous te prions. Pour tous ceux qui te donnent une bouche, Seigneur, en prenant la défense du faible et de l'opprimé, nous te prions. Pour tous ceux qui donnent un cœur, Seigneur, en préférant les faibles aux puissants, nous te prions. Pour tous ceux qui te donnent à ta pauvreté, Seigneur Jésus, le visage de l'espérance du royaume qui vient, nous te prions. Pour tous ceux qui te révèlent simplement par ce qu'ils font, parce qu'ils reflètent ta beauté dans leur vie, Seigneur, nous te prions. Et maintenant, frères et sœurs, de la communion de l'Église universelle, et avec tous nos frères catholiques, protestants, orthodoxes du monde entier, nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, chers amis, il faut des lieux où la musique de Dieu rejoigne le chant des hommes et où chacun puisse venir cueillir le soleil de la fraternité. Il faut des hommes et des femmes humbles et discrets, mais inspirés par l'Évangile et capables avec tous les autres, de n'importe quelle langue, de n'importe quelle culture, de n'importe quelle religion, de travailler à la mise en place d'une terre enfin humaine. Il faut des lieux où les esprits et les cœurs sont stimulés à passer les frontières et à s'ouvrir aux murmures et aux cris du monde. Il faut des lieux où, au travers des hommes et des femmes, l'Église devienne la présence réelle de l'amour de Dieu. Il faut des hommes et des femmes nourris de la parole de Dieu et dont le seul souci est, à la suite de leur Seigneur, de mettre la lumière et la joie dans le monde. C'est pourquoi il faut sortir maintenant de cette Église qui n'est que le lieu d'une halte où Dieu et son peuple s'arrêtent avant de reprendre le chemin. Car vous êtes, nous sommes appelés, nous sommes un peuple appelé à agir dans le monde par une parole vivante, car nous sommes le vrai temple du Seigneur, construit à la dimension de son amour. Et surtout, soyez sans crainte, dans la vie de tous les jours qui vous attend au dehors, vous serez plus que vainqueurs, et la joie du Seigneur sera votre force. Recevez donc maintenant la bénédiction qui nous vient de la part de Dieu. Le Seigneur vous bénit, vous garde, vous donne sa paix. Le Seigneur tourne vers vous son visage rayonnant et vous donne les vrais biens. Et que le Dieu de Jésus-Christ, dont l'amour surpasse toute intelligence, vous enveloppe et vous accompagne, vous, vos foyers et vos bien-aimés, présents et absents, visibles et invisibles, pour le temps et pour l'éternité. Allez dans la foi dans l'Éternel, dans l'espérance de son royaume et dans l'amour de votre prochain. Amen.